Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laetitia De Witt.
Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette émission Au fil des pages. J'ai le plaisir de recevoir Jean-Michel Legnaud qui vient nous présenter un magnifique ouvrage, Napoléon et les arts, paru aux éditions Citadel et Masno. Bonjour Monsieur Legnaud.
Bonjour.
Nos auditeurs ont eu l'occasion de vous entendre récemment sur Canal Académie dans une émission consacrée à l'École des Chartes, dont vous êtes le directeur. Vous êtes également président du Conseil scientifique de l'Institut national du patrimoine, président de la Commission du patrimoine culturel, membre du Conseil supérieur des archives, membre de la Commission régionale du patrimoine et des sites de Poitou-Charentes. J'oublie certainement beaucoup de choses. Vous avez publié de nombreux ouvrages sur l'histoire du patrimoine et sur l'histoire de l'architecture. Et vous êtes donc au micro de Canal Académie aujourd'hui pour nous présenter le dernier né, Napoléon et les arts. On connaissait Napoléon chef militaire, Napoléon législateur. Dans votre ouvrage, vous vous intéressez à Napoléon empereur des arts. Est-ce une facette méconnue de l'empereur ?
En fait, on connaît tout de même le rôle important que l'Empire a joué dans le monde des arts. On sait aussi qu'à l'époque de l'Empire, de nombreux artistes ont conjugué leurs efforts dans un temps relativement limité, et pas seulement des artistes, d'ailleurs des intellectuels. Enfin, c'est un des grands moments de l'histoire culturelle de l'Europe. Mais jamais l'époque impériale avait bénéficié d'un livre traitant de la globalité de la production artistique de l'époque et illustré de façon aussi abondante.
Alors on va s'intéresser en quelque sorte à la politique culturelle de Napoléon. Mais avant d'aborder le projet de Napoléon pour les arts, je voudrais que vous nous disiez deux mots sur les rapports que Napoléon entretient avec l'art. Et tout d'abord, possédait-il une culture artistique ?
Je pense qu'il ne possédait pas de culture artistique particulière. Et sa formation d'ingénieur et de militaire ne le prédispose pas vraiment à ça. Il est formé sur le tas. Il a bénéficié des conseils avisés de Joséphine qui, elle, lui donne une très bonne boussole en la matière. Mais surtout, je crois que comme ces chefs d'État considérables qu'ont été par exemple Louis XIV ou Louis XV ou même Louis XVI, il dispose d'une quantité d'informations phénoménale. Il peut tout savoir. Quel est l'homme qui connaît l'Europe entière, qui a circulé partout, qui a pu tout voir, qui a pu tout apprécier ? C'est Napoléon. Nécessairement, il a des critères de jugement différents.
Quels sont les grands principes de son projet pour les arts ? En a-t-il déjà ?
Oui, bien sûr. Certains sont déjà des principes qui ne lui sont pas propres, mais qu'il va développer particulièrement. Par exemple, son temps exprime l'idée que les arts doivent être liés à la politique, que les arts doivent porter un certain nombre de valeurs publiques. C'est une idée qui est exprimée déjà par l'Église, qui est reprise par la monarchie, que la Révolution développe singulièrement, qu'à son époque, un théoricien nommé Catherin de Quincy exploite à fond. Il explique que le but des arts, c'est d'avoir une destination publique. Et cette destination publique consiste en l'élévation du niveau civique des citoyens. Donc les arts doivent être protégés et surveillés en même temps.
Quels sont les moyens dont dispose Napoléon pour asseoir cette politique culturelle en quelque sorte ?
Bien, tout d'abord, dans le domaine de l'enseignement, la création de l'École des Beaux-Arts sur les décombres des anciennes académies. Les anciennes académies étaient des structures professionnelles privées. L'École des Beaux-Arts devient une institution publique. Les académies fonctionnaient de façon séparée. Cette fois, l'École des Beaux-Arts rassemble l'ensemble de l'enseignement artistique. Les académies pouvaient se promouvoir par l'intermédiaire du salon, qui était aussi une initiative privée. Dorénavant, le salon devient une initiative publique. Donc on voit bien qu'il y a un processus d'étatisation, mais il y en a dans d'autres domaines.
Autre nouveauté apportée par l'Empire à l'art, c'est la place du musée.
Alors la création du musée, bien entendu, puisque sous l'Ancien Régime, à proprement parler, il n'existe pas de musée, les collections royales sont plus ou moins ouvertes au public, et c'est une des grandes idées de la Révolution que de créer un muséum qui soit ouvert au public. Et ce que fait surtout Napoléon avec le soutien actif de Vivant de Nom, c'est la création du musée Napoléon, précisément, c'est-à-dire le musée de l'art européen au Louvre.
Au Louvre. Autre, nous sommes au micro de Canal Academy, donc vous y avez fait allusion, la classe des beaux-arts à l'Institut a une place très importante à cette époque-là.
Alors bien entendu, effectivement, à la fin du directoire, lorsque on restructure les anciennes académies qui ont été supprimées d'ailleurs à l'instigation d'un peintre, David, dans la logique de la loi Le Chapelier qui supprimait les corporations, David a poussé très activement à la suppression des anciennes académies artistiques. D'ailleurs, les artistes lui en ont beaucoup voulu par la suite. Et le directoire recompose complètement ces académies sous la forme d'une structure qui n'existait pas du tout auparavant, qui est totalement publique, qui est l'Institut. La seule personne morale qui existe à l'époque, c'est l'Institut. Si on parle de classe des beaux-arts, c'est parce que c'est une partie de l'Institut, ce n'est pas une académie. L'Académie renaîtra juridiquement qu'à partir de 1816.
Avant de nous intéresser de plus près aux apports de l'Empire dans l'art, je vous propose de marquer une courte pause.
Qui ne connaît pas ces évocations insolites de monstres marins, grouillants de mollusques, de crustacés, de grenouilles, de gueules, de requins et autres créatures de la mer, prenant la forme de nez, de bouche ou d'oreille pour en faire surgir le portrait allégorique de l'eau. Archimboldo a connu une immense gloire de son vivant. Il avait brillé à la cour impériale des Habsbourg, à Vienne, au XVIe siècle. Puis il était tombé totalement dans l'oubli jusqu'à sa redécouverte au XXe siècle par les surréalistes. Redécouvrez la modernité de ce peintre dans notre émission Carrefour des Arts sur canalacademy.com.
Vous êtes toujours à l'écoute de Canal Academy. Nous sommes en compagnie de Jean-Michel Legnaud qui vient de publier Napoléon et les Arts chez Citadel et Masneau. Détaillons maintenant la politique impériale dans les différents domaines artistiques. Commençons par l'architecture, domaine de prédilection de Napoléon, n'est-ce pas ?
Bien sûr, oui. Napoléon a des idées particulières sur l'architecture. Par exemple, il aime le gothique tardif. Il le dit devant Brou, alors que personne n'aime ça à l'époque. Il pousse à la promotion de l'architecture métallique. C'est lui qui fait lancer le projet de passerelle des arts, avec un système d'autofinancement par l'intermédiaire du péage. C'est lui qui décide le parti artistique de ce qui va devenir la Madeleine, en expliquant qu'on ne verra nulle part quelque chose de ce genre en France. Donc il a des idées particulières, hein. Il aime bien la symétrie, mais aussi le pittoresque. Il est certainement attentif aux idées de Joséphine, qui, elle, est très sensible à l'architecture paysagère. Donc nécessairement, il a des idées à lui, qu'il fait appliquer dans la manière du possible. Alors en même temps, il est très attentif à l'opinion publique. Il sait que dans ce domaine-là, il peut y avoir des micro-frondes. Et il tient vraiment à ce que les questions d'architecture publique soient posées au public parisien. Par l'intermédiaire de maquettes à grandeur, par l'intermédiaire d'expositions de maquettes ou de choses diverses. Il est très attentif à la façon dont le public reçoit l'architecture.
Vous montrez dans votre ouvrage que finalement Haussmann, qui est connu pour la transformation de Paris, bien sûr, n'a fait finalement que reprendre des projets avancés par Napoléon.
Haussmann et Napoléon III. Napoléon III et Haussmann reprennent le rêve impérial de la capitale. La capitale, c'est un lieu dans lequel se trouvent non seulement de grands monuments et le siège des grandes institutions publiques, mais c'est le lieu d'un urbanisme monumental. Il est certain que l'haussmannisme trouve son origine dans la conception de la rue de Rivoli telle que Percier et Fontaine l'avaient dessinée.
Quels sont les grands architectes de l'Empire ?
Bien, vous avez Percier, Fontaine, Poyer qui va réaliser la façade du palais Bourbon, Berthaud dont je vous parlais tout à l'heure qui est un architecte paysagiste, Trepsa qui est moins connu, qui a beaucoup travaillé à Versailles en ses vertus depuis des années, a supprimé la couche Trepsa à Versailles pour restituer l'état d'Ancien Régime. C'est, à mon sens, extrêmement dommage. Vous avez Sellerier, qui est encore là, Legrand également, enfin, toute une pléiade d'architectes qui ont besoin d'être réévalués aujourd'hui.
Il est difficile d'apprécier leur œuvre, car finalement, comme vous le disiez en début de l'émission, le règne de Napoléon a été finalement assez court, donc beaucoup des grands projets n'étaient pas terminés lorsque Napoléon quitte le pouvoir.
Voilà, la plupart des grands chantiers impériaux sont restés à l'état d'inachèvement. Ils ont été poursuivis par la suite et pas nécessairement par les mêmes. Bon, Vignon poursuit son œuvre à la Madeleine, mais pour bien d'autres, le cas se pose différemment. Et une partie d'ailleurs des travaux que ces architectes ont réalisés a été détruite.
Alors, je ne l'ai pas encore dit d'ailleurs, mais votre ouvrage « Napoléon et les arts » est vraiment un livre objet, j'ai envie de dire, magnifiquement illustré, qui permet de mieux percevoir cet attrait de Napoléon pour les arts. Et maintenant, nous allons nous intéresser à la peinture sous l'Empire. Avant d'en voir les principaux acteurs, pouvez-vous nous indiquer le rôle que Napoléon accordait à la peinture ?
Napoléon, en tout cas, est sensible au comportement des artistes. Je pense qu'il a compris que les artistes font partie de l'opinion. Donc il tente à les cajoler. Il va faire de David son premier peintre. Il va décorer la Légion d'honneur Gros. Isabée sera le premier peintre de l'impératrice. Il sait très bien que tous ces artistes ont des opinions politiques. La plupart d'entre eux ont été francs-maçons sous l'Ancien Régime, ou le sont encore, et donc ont des idées libérales. Ils ne sont pas nécessairement favorables à l'Empire tel qu'il devient de plus en plus institutionnalisé et héréditaire. Alors, comment faire pour cajoler les artistes ? Les moyens sont toujours les mêmes. Vivant de nom, on les utilise largement. La commande, les décorations, la considération. Et petit à petit, se constitue un goût autour de tout cela.
Et pouvez-vous nous dire deux mots de ce goût, justement ?
Eh bien, c'est d'abord une iconographie autour de l'Empire. Moi, j'insiste sur le fait qu'on est dans une période de guerre. La guerre est permanente et la paix n'existe pratiquement pas. Et même si on peut avoir l'illusion de la paix à Paris jusqu'à l'arrivée des Cosaques en 1814, la guerre est partout ailleurs et la guerre devient une esthétique. Ça peut paraître un peu aberrant de dire cela aujourd'hui, mais il existe une esthétique de la guerre, une esthétique de la bataille, une esthétique de l'uniforme, une esthétique du cheval de guerre, une esthétique de l'héroïsme. Et ça, ça fait vraiment partie de l'idéal impérial. Il y a la pompe du pouvoir aussi, la représentation du souverain. Quand Ingres représente Napoléon en une sorte de néo-basileux, c'est le portrait du musée de l'armée. C'est le portrait qui est préféré à bien d'autres portraits, notamment de David, qui représente un empereur en train de marcher, donc peut-être en situation de déséquilibre. Et puis, c'est un art aussi qui reflète les goûts d'une société nouvelle, des néo-riches, qui en rajoutent. Déjà, il faut dire que le Louis XVI de Cour s'est passablement chargé. Mais on poursuit dans cette voie, très clairement sous l'Empire. C'est à partir de la Restauration que les choses vont vraiment se modifier, se transformer.
La peinture militaire occupe-t-elle une place importante ?
Elle occupe une place importante parce qu'on la lui a donnée d'une certaine façon. On le lui a donné par le fait que Vivant de Nom, tenant la clé des commandes, consacrait une certaine quantité d'argent chaque année à passer commande aux artistes pour représenter les hauts faits de la Grande Armée. Mais en même temps, on a un peu trop exagéré. On ne peut pas limiter la peinture impériale à cela. On ne peut pas considérer que le catalogue de la peinture impériale de l'époque de l'Empire correspond à la liste des hauts faits ou des défaites de la Grande Armée. Nécessairement, il s'est aussi passé autre chose dans la peinture de genre, dans la peinture d'histoire, dans le paysage aussi.
Un des aspects très intéressants que vous montrez dans votre livre, c'est l'évolution de ces différents genres et même justement dans la peinture militaire. Gros s'était spécialisé un peu dans le domaine, si j'ose dire, et on voit l'émergence d'un Géricault et rien à voir entre ces deux peintres. Il n'y a pas un seul style empire.
Non, mais en même temps, il y a évidemment pas mal de choses en commun, parce que entre les pestiférés de Jaffa et les agonisants du radeau de la Méduse, il y a nécessairement des points communs. Mais Gros essaie d'adapter à sa façon un héroïsme rubénien qui n'est pas tout à fait ce que l'on trouve loin de là chez Géricault.
Alors venons-en à la sculpture. Plus encore qu'en peinture, il semble qu'elle soit vraiment au service du pouvoir. Napoléon a-t-il des idées précises en matière de sculpture ?
Plus ou moins. D'abord, je voudrais commencer par préciser que la sculpture de l'époque de l'Empire, c'est vraiment une sorte de trou noir dans l'histoire de l'art qu'on commence tout juste à chercher à éclairer. Pendant des générations, on a dit que ça n'avait véritablement aucun intérêt. Bon, des travaux patients commencent à sortir tout ça de l'ombre et je pense qu'on est encore loin du compte. Napoléon a quelques idées précises, moins sur la culture que sur la façon dont il doit être représenté.
Ou ne pas être représenté.
Ou ne pas être représenté, oui. Il est tout à fait contre la nudité héroïque de qui que ce soit, à commencer par lui-même. L'œuvre fameuse de Canova, le représentant en Mars pacificateur et dans un état de nudité idéale, ne lui a pas du tout plu. Il est contre cela. Il sait, il sent que ça fait ridicule, que les Parisiens s'en moqueront. Il sait très bien qu'il n'a pas des traits augustéens et qu'il n'a pas le ventre plat d'un athlète du 5e siècle ou du temps de Périclès. Donc il récuse ce genre de représentation et il n'aime pas cela. À partir de ce constat, il n'est pas certain qu'il ait des idées très précises. Joséphine en a. Joséphine pousse évidemment beaucoup Canova. Elle aime aussi la sculpture médiévale, d'ailleurs. Elle a des goûts précis. Napoléon, c'est différent. Ce qui compte pour lui, c'est l'utilité publique de ces monuments-là. C'est où il y a vraiment un point de la production artistique sur lequel s'applique ce principe de destination publique, c'est bien la sculpture.
Un artiste se démarque dans ce paysage quelque peu officiel. Vous y avez fait allusion à l'instant, c'est Antonio Canova. À la fois, Napoléon va faire appel à lui sans apprécier réellement son travail.
Oui, ça dépend, ça dépend. Non, la position de Napoléon est bien nuancée. Il n'aime pas ses pacificateurs. En même temps, il sait très bien que Canova est un personnage très très important. D'ailleurs, il le flatte, il essaie de le faire venir à son service. Canova refuse. Il sait aussi que Canova occupe une place très complexe dans l'univers plastique statuaire français parce que les Français l'admirent tout en essayant de s'en détacher. Donc Canova, c'est quelqu'un qu'il faut absolument ménager, on ne peut pas le mal considérer.
Mais qui reste rare, il refusera la politique de séduction, entre guillemets, de Napoléon.
Ça ne marchera pas, c'est comme Bernin. Bernin et Canova considèrent qu'ils sont au service du pape et d'aucun autre monarque dans l'univers.
Alors venons-en aux arts décoratifs. Dans le projet de Napoléon pour les arts, les arts décoratifs doivent avoir une place tout aussi importante que l'architecture, la peinture ou la sculpture. Pourquoi ?
D'abord, il y a plusieurs chantiers. Le premier chantier, c'est la restauration des anciennes demeures royales qui ont été complètement vidées et ruinées. Et le projet de Napoléon consiste à leur rendre leur splendeur. Non pas leur splendeur d'origine, la splendeur de son temps, mais il faut les redécorer et les meubler, qu'il s'agisse de Fontainebleau, qu'il s'agisse de Versailles ou qu'il s'agisse encore de Compiègne. La deuxième idée est que il faut, par l'intermédiaire des arts décoratifs, on peut stimuler l'industrie. Alors, l'industrie de recherche, l'industrie de pointe, la découverte de nouveaux moyens d'intervention, par exemple à la manufacture de Sèvres, dans le domaine de la cuisson de l'émail, et aussi l'industrie qui produit de façon quantitative, je dirais, dans le domaine du textile, en particulier la soie lyonnaise. On a acheté tellement de soie à la fin de l'Empire que la restauration n'aura plus besoin d'en acquérir.
Quels sont les grands acteurs de ces chantiers ? Vous avez cité tout à l'heure Percier.
Percier et Fontaine, ce sont les acteurs essentiels. Ce sont les concepteurs essentiels. C'est autour d'eux que tourne l'essentiel de l'activité. Avec leur recueil de décoration intérieure, ils donnent des modèles à toute l'Europe. À partir de 1808, on sent que leur influence baisse un peu, qu'ils n'ont plus vraiment... Parce que c'est Joséphine qui fait une grande partie du goût tout de même... On sent qu'ils sont un peu disgraciés par Joséphine qui va chercher d'autres voies.
Les arts décoratifs, ça comprend aussi bien sûr le mobilier. L'Empire est important finalement, c'est le début de l'industrialisation presque.
Oui, c'est-à-dire, en fait, dans le domaine du mobilier, cette industrialisation, elle est déjà assez ancienne dans la mesure où on commence déjà à fabriquer en série sous l'Ancien Régime. On assemble des éléments préfabriqués. Le menuisier assemble des éléments préfabriqués. Et ce que vont faire... les producteurs de mobilier de l'époque impériale, autour de Jacob de Malter et les autres, ça va être quelque chose de ce genre. La duplication va devenir un objectif en soi. On sort de l'unicum pour faire la duplication. Alors, à partir de là, on va mettre au point des techniques. Ça va être tout le projet du 19e siècle, d'ailleurs. Hein. Mettre au point des techniques qui vont permettre de multiplier le plus possible des unicas artistiques.
Alors, nous arrivons au terme de notre émission. Peut-on parler d'un style empire ?
C'est difficile à dire. Oui, il y a évidemment un style empire. Il y a cette esthétique éthique dont je parlais tout à l'heure, de pompe, d'héroïsme, de gloire militaire. Ça, c'est incontestable. Et il y a aussi une autre façon de percevoir la question. Le bonapartisme, c'est quand même le développement de la classe moyenne, des couches populaires de la société qui montent lentement. Et une grande partie de la production de l'époque impériale a facilité l'accession de ces classes populaires en direction de classes un peu plus supérieures. Et par certaines acquisitions de mobilier, d'art décoratif, de peinture, les classes populaires franchissent petit à petit les voiles invisibles qui font passer d'une classe à l'autre. C'est-à-dire que le style empire, c'est aussi le style de la démocratisation artistique. Et c'est pas un hasard si le bonapartisme, tout au long du XIXe siècle, va être porté par la frange inférieure de la bourgeoisie ou la frange supérieure du peuple. Ça correspond à cela.
Est-ce cette raison, d'ailleurs, qui a dénigré le style empire jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je dirais?
Oui, c'est très curieux. Il y a toute une série d'explications à cela. Il y a l'explication la plus récente. Actuellement, Napoléon se trouve dans le creux de la vague. Ça, c'est une affaire certaine. Il fait l'objet d'une sorte de révision de son règne. On le perçoit de façon assez négative. C'est le contre-coup d'une histoire américaine qui a été très marquée par des affirmations anglo-saxonnes et plus généralement britanniques qui remontent déjà à l'époque de l'Empire. Notamment, c'est le cas par exemple des pestiférés de Jaffa. Bon. Alors, il y a une autre raison au jugement négatif porté sur l'Empire. C'est la raison qui correspond à celle des anciennes couches de l'élite, la monarchie. Il ne peut pas y avoir d'art en dehors des Louis, en définitive. Napoléon est un parvenu, donc l'art empire est un art de parvenu. Et puis, il y a une troisième raison, c'est qui fait qu'on a déconsidéré l'art de l'empire, c'est qu'il était déjà foncièrement académique. Il était jugé comme académique. Lié au pouvoir, il ne pouvait être qu'académique. Si on a autant dénigré la sculpture, c'est parce qu'on considérait qu'elle réduisait à rien le génie individuel, tellement elle aurait été contrôlée par la commande.
Merci infiniment Jean-Michel Legnaud. Je recommande à nos auditeurs votre ouvrage « Napoléon et les arts » paru aux éditions Citadel et Masno, tant pour ses belles images que pour y découvrir l'importance de la période impériale dans le domaine des arts. Merci de nous avoir suivis. Au revoir à tous et à toutes.